je suis le chef du département de la communication de l'ESA. Mon nom est Philippe Wilkens et je travaille à l'Agence spatiale européenne depuis à peu près 30 ans. Et ma responsabilité est de parler de l'espace et surtout de faire connaître l'Agence spatiale européenne. Alors mon parcours, il est né d'un des projets qui me tient le plus à cœur, c'est la Station spatiale européenne. Donc la Station spatiale internationale contient une petite station spatiale européenne qui s'appelle Columbus. Donc c'est là où j'ai commencé ma carrière. J'étais recruté pour promouvoir Columbus. Les activités scientifiques qui sont faites et qui sont actuellement en cours depuis plusieurs années à bord de l'ISS. Et ensuite, j'ai continué sur un deuxième programme qui me tient à cœur, qui est le programme des lanceurs. J'étais responsable de la communication, mais aussi des installations, toutes les installations de fabrication et de lancement. Ensuite, 6 ans auprès du bureau d'éducation, j'ai lancé des petits satellites avec des étudiants. Bon, sans doute une des périodes les plus palpitantes de ma carrière. Pour finir, 6 ans à l'extérieur, à la tête d'une fédération internationale de l'espace qu'on appelle l'IAF, revenir à l'ESA pendant encore 4 ans pour organiser les réunions ministérielles de l'ESA, et puis voilà, au département de communication. Alors notre milieu ici est un milieu un peu particulier puisqu'on est, on fait de la communication institutionnelle. Donc on ne fait pas de pub, on ne fait pas d'opération coup de poing pour faire connaître notre marque comme une société privée. Nous sommes payés par les citoyens européens. Donc cela ne nous empêche pas de faire évidemment de la promotion de nos activités et d'avoir des partenariats par exemple avec des sociétés privées. Mais essentiellement notre travail est de la communication institutionnelle et on fonctionne comme une agence de communication normale. C'est-à-dire on a un service de presse, on a un service d'événements, d'expositions, on a un service lié à tous les médias sociaux, brochures, etc. On fait des films, on a nos propres caméramans, nos propres équipes, et tout cela coordonné ici à Paris par notre équipe, mais nous sommes représentés dans pratiquement tous les centres de l'Agence spatiale européenne. En France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, même à Moscou, à Kourou, donc nous avons des équipes un peu partout. Alors, nous sommes évidemment parmi les organisations spatiales principales qui avons participé à l'exploration, la découverte de planètes. Nous étions les premiers à atterrir sur un satellite de Saturne, peut-être Titan à l'époque. Nous avons poursuivi avec ExoMars, nous avons surtout poursuivi avec Rosetta, qui a atterri sur une comète, et nous poursuivons avec ExoMars. Donc c'est un voyage qui ne démarre pas de la Terre et finit à la Lune, ou finit sur Mars. Imaginez-vous que c'est comme une espèce de station de métro où on est en train de construire la ligne numéro 1. Cette ligne numéro 1, elle démarre de la Terre, elle a déjà été bien exploitée au niveau de l'orbite basse. C'est là où nous avons notre station spatiale internationale, 450 km d'altitude. On va poursuivre avec la Lune, d'abord en orbite de la Lune et puis sur la Lune, proprement dit. Et la ligne va se construire naturellement vers Mars. Donc un de nos projets, consiste à préparer l'avenir de cette ligne. Et cet avenir, il est construit autour d'une mission qui s'appelle ExoMars. Un premier essai avec un satellite qui a pour but d'identifier les sites d'atterrissage, mais aussi d'observer le contexte un petit peu environnemental de Mars, avec un nez particulier, puisqu'il s'agit d'un satellite très performant qui permet de détecter les différentes compositions de l'environnement spatial et atmosphérique de Mars, si vous voulez. 2020, nous aurons un rover qu'on fera atterrir et qu'on placera sur Mars pour positionner, non seulement creuser à plusieurs à 2 mètres de profondeur et éventuellement contribuer à cette recherche de l'eau dans le sol martien, mais aussi d'établir déjà les premières bases qui nous permettront éventuellement de nous positionner, de coloniser Mars. Donc voilà, ça c'est une des allées que nous allons suivre. L'autre projet qui me tient peut-être aussi à cœur, ce sont les projets liés à l'observation de la Terre, donc de plus en plus performants. L'observation de la Terre est absolument fondamentale pour observer l'évolution du climat, de l'impact évidemment de l'homme sur l'ensemble de son environnement terrestre. Nous avons travaillé et nous travaillons de manière intensive avec l'Union européenne sur des programmes Copernicus. Nos satellites Sentinelles se déploient petit à petit au fur des années, de plus en plus performants. Et tout ça, bien sûr, pour toucher les gens au cœur de leur vie quotidienne, puisque vous nous retrouvez au niveau de la météo, mais aussi dans les catastrophes naturelles. Malheureusement, nos outils sont là pour aider les équipes seules en cas de crise, en cas de catastrophe, mais ils sont de plus en plus performants et nous permettront aussi d'anticiper un certain nombre de phénomènes et de nous y préparer. Donc voilà deux types de programmes totalement différents, l'un qui inspire et l'autre qui aide au jour le jour. Bien sûr, on en a beaucoup plus que ça. Alors actuellement, l'Europe est numéro 2 dans la course à l'espace. Évidemment, la NASA, avec un budget qui est pratiquement 4 fois et demi plus important que celui de l'Europe, tout budget confondu, l'Europe investit à peu près 5 milliards par an dans le spatial, ce qui correspond, je dirais, pour l'ESA, à un ticket de cinéma par citoyen européen. Donc, malgré ce montant qui est relativement modeste, nous sommes deuxièmes dans cette initiative, dans cette coopération internationale. Et bien sûr, quand je parlais d'exploration et de découverte, il est évident qu'il y a des programmes où nous ne pouvons pas être seuls. Alors, il ne s'agit pas de joindre les forces du numéro 1 et du numéro 2, c'est l'ensemble des pays. Et on constate bien sûr que des acteurs comme la Chine, qui sont des puissances qui investissent de plus en plus dans le spatial, sont des partenaires de plus en plus intéressants. Les Chinois ont mis en place un système très progressif où ils ont appris à maîtriser l'orbite basse, à définir leur station spatiale à eux, à vivre dans l'espace, à avitailler aussi leur module et peuvent regarder vraiment en face l'ensemble de la communauté spatiale avec un outil assez performant. Donc voilà, mais bien sûr on a nos partenaires privilégiés comme le Japon, les Canadiens, les Russes bien sûr, avec lesquels nous travaillons sur la mission ExoMars dont je vous ai parlé plus tôt. Alors on peut dire que l'histoire spatiale a eu des tournants. Donc la naissance, c'était de toute évidence au siècle dernier, elle est née d'une compétition. Donc en pleine guerre froide, nous avions deux leaders. L'Europe n'y était pas, c'était vraiment les États-Unis et l'URSS à l'époque. Donc cette première phase qui est peut-être la naissance du spatial a eu lieu au siècle dernier. Le deuxième virage, on le sent pratiquement dans cette période actuelle, qui est un virage technologique, mais aussi un virage d'acteurs, où des acteurs nouveaux rentrent sur le secteur. À l'époque, il s'agissait d'un groupe assez spécialisé. On parlait de grandes organisations spatiales comme l'agence spatiale russe, l'agence spatiale américaine. Et puis nous sommes nés en 1975 de la fusion entre deux organisations des années 60. L'agence spatiale a été créée en 75 et donc a vécu à peu près une cinquantaine d'années pour finalement nous amener à un moment où d'autres acteurs du monde privé viennent s'insérer et apportent leur vision des choses. Un petit peu comme dans l'informatique, vous aviez aussi des acteurs nouveaux qui ont créé cette disruption. On constate que les GAFA aujourd'hui, les Google et les autres, sont en train de nous bousculer. Certains milliardaires comme Elon Musk et SpaceX bougent les codes, changent les codes, bougent les lignes et nous poussent à réfléchir à d'autres méthodes. Donc voilà, aujourd'hui ce contexte est différent. Donc est-ce que c'est le crépuscule d'une période ou est-ce que c'est l'aube de l'autre? On est au balbutiement de l'exploration spatiale. On est à la première, la petite enfance de la connaissance de notre environnement. Nous sommes en train de découvrir pratiquement mois par mois des exoplanètes qui sont des planètes très similaires à celles de la Terre en dehors du système solaire. Et ça nous apporte des connaissances, mais surtout ça nous apporte une conviction profonde que nous ne savons rien. D'autres satellites comme Planck nous ont apporté une image fabuleuse qui était l'image des quelques moments qui se sont déroulés juste après le Big Bang. Donc ce sont des images qui nous interpellent, qui nous apportent des années et des années d'analyse pour notre communauté scientifique. Pareil pour des changements de paradigme, comme par exemple les satellites Gaïa ou LISA Pathfinder, qui nous donnent des informations qui pourraient remettre en question quelque part les théories principales auxquelles on a fait référence au XXe siècle, comme celle de la gravité et les ondes gravitationnelles de Einstein. Donc, sommes-nous au crépuscule de cette théorie-là et à l'aube d'une nouvelle théorie? L'espace est infini et nous n'en sommes qu'au premier pas.
C'est pas.
Il est indispensable d'avoir des relais entre le citoyen, celui qui paye, et ceux qui exécutent, ceux qui implémentent les programmes comme les grandes agences et l'industrie spatiale. Ces relais sont indispensables pour traduire, ne fût-ce que c'est de faire comprendre un petit peu en clair et dans leur langage ce qui est fait au jour le jour avec leur argent. C'est vrai que souvent, quand je m'adresse au grand public ou que je vais dans les classes, et c'est d'ailleurs plus les parents que les élèves eux-mêmes me disent tout cela est compliqué, je ne comprends rien, d'ailleurs je n'ai pas fait d'études scientifiques, donc je ne comprends rien. C'est dommage parce que tout ça est facile à comprendre. Même si quand on regarde la télévision et un match international de Coupe du Monde en direct, on ne se rend pas compte de l'existence d'un satellite, de son importance et de sa complexité, on peut savoir que les quelques pourcents du PNB investi ou le ticket de cinéma dont je parlais tout à l'heure investi dans le spatial a contribué à ce genre d'application et de service, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit dans le monde de l'exploration qui fait que nos scientifiques passent des années à essayer de comprendre quelque chose de relativement théorique. Donc oui, on a besoin de ces relais, on a besoin d'organisations qui vulgarisent, qui mettent à disposition des informations. Et je me rends compte que surtout les associations qui travaillent sur l'astronomie arrivent à avoir une capacité de développer une connaissance fabuleuse de la part de ses adhérents, même parfois supérieure à certains de nos ingénieurs qui travaillent sur les programmes. Donc, pas spécialement nos astronomes, mais on a déjà constaté des experts de ces associations qui viennent faire la vie dure à certains de nos ingénieurs avec leurs questions très pertinentes et généralement basées sur une très très bonne connaissance. Donc ces associations sont importantes, surtout elles sont là pour maintenir cette passion que nous avons tous dans le spatial. Et il faut qu'elle continue à assurer ce relais, et surtout vers les jeunes générations. Il faut que les jeunes générations gardent les yeux pétillants, il faut que l'espace continue à faire rêver, il faut qu'elles maintiennent leur ambition d'avancer dans les études qui les amènent à des positions de chercheurs ou à des positions d'ingénieurs qui bougent, qui repoussent les limites de nos connaissances. Contribuent activement tous à cette exploration spatiale que nous avons démarrée il y a à peu près 60 ans. Il ne faut pas que ça se limite justement à des scientifiques, il faut qu'on ouvre aussi à toutes sortes d'autres types d'études. On parlait de psychologie, on parlait de biologie, on parle aussi d'études juridiques, d'économie. Donc tous ces gens-là ont un rôle à jouer dans un monde spatial qui se diversifie énormément. Donc tous les jeunes sont les bienvenus. Au niveau de bac plus 2, bac plus 3, bac plus 8, ou même pas de bac du tout, parce que l'espace est ouvert à tout le monde.